Hamas ne sera probablement pas oublié.
Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités, Shafiq Osman, docteur en géopolitique, observateur du monde musulman et éditeur scientifique. Il nous rejoint via Skype de South Dundas en Ontario, au Canada. En direct de Yaoundé, au Cameroun, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Et à notre troisième participant, qui est ici à mes côtés dans le studio 52 de la VOA, l'analyste américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé à Washington, D.C. Calvin Dark, je commence avec vous. Comment voyez-vous évoluer ce conflit depuis son déclenchement dans la première semaine du mois écoulé? Que comprenez-vous par cette nouvelle phase de la riposte menée par l'État hébreu?
Je crois que ce qui se passe maintenant, c'est une grande distraction de la source du problème. Parce qu'il y a deux semaines, on parlait de les attaques terroristes de Hamas et le droit de se défendre d'Israël. Mais à cause de ces milliers de gens tués et blessés, le focus maintenant, c'est qu'est-ce que c'est vraiment la riposte israélienne? C'est exactement ce qu'il faut. Peut-être ça va s'aggraver la situation parce que ils essaient de éradiquer Hamas. Hamas, c'est pas juste les dirigeants et les soldats, c'est une idéologie. Et si ils détruisent les personnes, ça c'est juste la moitié du travail. Il faut chasser cette idée. Et il est possible que ces actions d'Israël vont s'aggraver la situation parce qu'il va créer des autres groupes, des groupes nouveaux radicalisés contre Israël.
Mais rare développement positif depuis le début des hostilités, des blessés palestiniens, de même que des groupes de binationaux et d'étrangers, ont pu quitter la bande de Gaza hier. D'autres évacués étaient attendus en Égypte ce jeudi. Jean-Victor, est-ce là une petite lueur d'espoir pour toutes les parties en quête d'une désescalade du conflit?
Même avec une tragédie d'une telle ampleur, il ne faut jamais perdre espoir. C'est pour cela qu'il faut féliciter les efforts que la communauté humanitaire fournit sur place à Gaza même et les efforts que les pays qui sont non seulement autour de cette question, proches géographiquement, mais aussi un peu plus loin, en envoyant des bateaux, des navires pour le soutien humanitaire au peuple de Gaza, il faut continuer à renforcer et à encourager cet effort. Il faut cependant craindre que le grand esprit de solidarité que le monde, d'une certaine manière, a exprimé en condamnant les actes terribles perpétrés par le Hamas le 7 octobre, cela peut maintenant s'effondrer ou plutôt s'émousser en défaveur d'Israël, parce que le nombre de victimes est vraiment trop important. Et comme l'a si bien dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui s'est dit atterré par la situation sur place, l'aide est trop petite. Il faut véritablement que Gaza soit assisté. C'est pour cela que l'Assemblée générale des Nations Unies a eu raison de voter une résolution, certes non contraignante, mais tout de même qui demande une pause aux hostilités. Il est très important que les civils soient protégés. Et comme le Haut Commissariat des Nations Unies l'a si bien dit, il faut maintenant commencer à voir s'il ne faut pas rassembler des preuves de ce qui peut être considéré comme crime de guerre.
Ouais. Et le président américain Joe Biden a également demandé une pause dans le conflit hier. Alors, il n'y a pas de répit non plus quant aux craintes d'embrasement au Proche-Orient. Justement, Shafiq Osman, que faut-il attendre de la nouvelle tournée du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans la région à partir de ce vendredi, d'abord en Israël, puis en Jordanie, mais aussi de la demande faite par la Turquie et l'Iran pour la tenue au plus vite d'une grande conférence internationale afin d'éviter une guerre régionale?
Oui, en effet, je ne sais pas ce que le secrétaire d'État va effectivement dire et ce sera quoi son message demain et après-demain, et à la fois en Israël et en Jordanie, mais ce qui est sûr, c'est que ça doit, à mon avis, aller dans la direction de la paix. De façon, toute initiative, que ça vienne de X, Y ou Z, de la communauté internationale, doit aller dans le sens de la paix. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, dans ces moments-là. Et pour rebondir sur votre question, oui, je suis tout à fait d'accord, je suis même 100% d'accord, que la demande de l'Iran et de la Turquie pour une grande conférence internationale, on peut l'appeler ce qu'on veut, hein, conférence, sommet, ce qu'on veut, et c'est dans le but ultime d'arriver à un processus de paix. Et comme je l'ai dit publiquement déjà, il n'y aura pas de paix. La paix passera obligatoirement par la création de l'État palestinien. Vous savez, dans tout mal, il y a un bien. Donc, il est peut-être temps, maintenant, que la communauté internationale se ressaisisse et qu'ils se disent « Non, nous voulons maintenant la création de cet État. Commençons à travailler très concrètement avec les Nations Unies, avec les parties prenantes, tant côté occidental, israélien et arabe, et allons créer cet État et allons se donner la chance que toutes les parties prenantes soient entendues et qu'on arrive enfin à un processus de paix. C'est pas difficile, il suffit de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement et chez quelques parties prenantes de volonté également.
Ici même aux États-Unis, l'aide à Israël, mais aussi à l'Ukraine, est débattue ce jeudi au Congrès. Le premier acte du républicain Mike Johnson, le tout nouveau président de la Chambre des représentants, a été de faire adopter une résolution condamnant l'attaque du Hamas contre Israël. Le speaker a indiqué vouloir dissocier le soutien à Israël de celui à l'Ukraine, qui est toujours en guerre contre la Russie. Calvin Dark, les élus américains vont-ils adopter l'enveloppe faramineuse voulue par le président Joe Biden avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie, ou vont-ils se cantonner à l'appui financier à Israël?
Je crois que c'est 100% qui vont adopter le projet de loi pour Israël. Mais on sait que Biden il veut lier les deux choses, parce qu'il sait qu'avant le 7 octobre, le soutien pour l'Ukraine, c'était de plus en plus faible. Alors, il est d'accord avec les leaders républicains au Sénat, dans la minorité, parce qu'ils savent aussi, s'ils sont séparés, on va jamais voter pour la continuation d'aide au même niveau pour l'Ukraine. Et je crois que le speaker, ce qu'il a fait au début de son mandat, de lier les priorités des républicains dans la chambre domestique avec le projet de loi pour l'aide d'Israël, c'était très mal vu par les républicains et les démocrates et surtout la communauté juive. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le Congrès va adopter au moins l'aide pour Israël.
Vous me tendez la perche, Calvin Dark, brièvement, si vous pouvez. Le soutien à Israël, Israël, nous le rappelons, partenaire de longue date de Washington, a-t-il entraîné des divisions ici aux États-Unis au vu notamment des manifestations de rue ou sur les campus universitaires?
Oui, je crois que ça complique des choses, parce que les États-Unis, ce n'est pas juste un allié d'Israël, on finance ces efforts. Et c'est pour ça qu'au sein de notre pays, il y a une discussion. Surtout, même eux qui sont avec Israël, sont d'accord avec leur riposte, il faut une partie de cette aide humanitaire pour les Palestiniens. Et je crois que ça va être vraiment la question pour le débat aujourd'hui, pour qu'est-ce qu'il y ait de dont un projet d'aide pour Israël et aide humanitaire pour les Palestiniens.
Jean-Victor, généralement, vous intervenez de New York, mais vous qui êtes actuellement dans la capitale camerounaise, les avis sont-ils tout autant partagés sur le continent africain par rapport à cette guerre entre Israël et le Hamas?
Vous avez tout à fait raison de suggérer que, vu outre-Atlantique, la configuration internationale peut être différente de celle que l'on perçoit quand on est, par exemple, sur le sol africain, où il y a de véritables changements dans la perception de la gestion du monde. Je crois que même quand on ne comprend pas toutes les subtilités de la politique américaine entre la Chambre des représentants, le Sénat, la Maison-Blanche, entre les divers pôles du pouvoir américain, force est de constater que les bisbilles politiques intra-américaines donne une véritable perception qui est très négative de l'aura des États-Unis dans le monde. Et je pense que même si le président Biden ne voulait pas lier la question du conflit israélo-palestinien à la question de la Russie et de l'Ukraine sur le plan du financement, force est de reconnaître que les États-Unis jouent ici leur primauté, leur place, qui a toujours été très importante, sinon première, sur la géopolitique internationale. Il est donc très important, et je crois que la Maison-Blanche le perçoit bien, qu'il y ait une sorte d'équilibre, mais aussi un message, aussi bien qu'une action très importante, dans le sens où le rôle des Américains, la place des Américains, et aussi leur condamnation des abus gravissimes que tout le monde voit, il est absolument impossible de rester insensible face à une telle brutalité. Je pense que le monde, notamment en Afrique et dans les pays du Sud, les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut une autre lecture, peut-être une autre vision. Et je crois qu'à la Maison-Blanche, on a de plus en plus conscience de ça, et le jeu des États-Unis en Afrique, que ce soit au Niger, en Afrique australe, en Afrique centrale ou ailleurs, montre bien qu'ils commencent à prendre conscience de cette nouvelle réalité.
Oui. Shafik Osman, toujours au chapitre des réactions mondiales, brièvement, si vous pouvez, quelles sont les positions adoptées par les grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, concernant cette escalade ?
Écoutez, la Russie joue un jeu d'équilibre, difficile, certes, mais il est arrivé plus ou moins à faire un jeu d'équilibre entre Israël et les forces palestiniennes ou le Hamas. La Chine a pris plutôt position, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, pour la cause palestinienne et côté palestinien, tout en critiquant évidemment l'attaque du Hamas. Ce que je vous disais les parties prenantes côté occidental les grands pays, comme on les appelle entre guillemets, ont soutenu Israël à fond jusqu'ici, y compris l'Union européenne, et les pays arabes ont eu quelques surprises entre guillemets, parce que les pays arabes se sont alignés complètement sur la cause palestinienne, et là je pense notamment à l'Arabie saoudite qui avait quand même un rapprochement avec Israël et qui a tourné la page complètement depuis le début du conflit. L'Arabie saoudite s'est même posée potentiellement comme un pays médiateur. On a vu le rôle extraordinaire qui continue à jouer, et là je parle du Qatar, qui a un lien direct avec le Hamas, avec le leadership du moins du Hamas. Vous avez parlé de la Turquie un peu plus tôt, oui, qui aussi a des liens avec le leadership du Hamas. Et dans toute négociation, dans toute discussion, dans tout sommet, allons dire, il faut absolument avoir non seulement la Russie et la Chine, qui sont des membres du Conseil de sécurité permanent, mais aussi, oui, il faut avoir, oui, la Turquie, et il faudrait avoir l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, en sus des pays occidentaux, oui, comme le Royaume-Uni, la France, l'Union européenne et l'Allemagne.
Voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 2 novembre 2023. Nous braquons les projecteurs sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. D'emblée, quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema de Ouagadougou au Burkina Faso. C'est le conflit le plus médiatisé au monde actuellement, en oubliant ceux en Afrique et sur les autres continents. Il nous montre une fois de plus l'hypocrisie de la communauté internationale et surtout des États-Unis. Le monde n'aura jamais la paix si les grandes puissances n'arrêtent pas leur politique extérieure de deux poids, deux mesures. Pour la fin de cette crise, il faut une solution à deux États avec la bénédiction de tous. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Hamas, en agressant Israël, devrait certainement s'attendre à une telle riposte de l'armée israélienne soutenue par les États-Unis. La désescalade tarde à venir pour la simple raison que ce conflit date depuis 1948 et les solutions proposées ne sont pas appliquées, à savoir la solution à deux États. Et voilà pour quelques points de vue de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous retrouvons nos invités pour continuer à en parler dans cette seconde partie du programme. Shafik Osman, docteur en géopolitique, Université Paris-Sorbonne en France, observateur du monde musulman et éditeur scientifique. Il nous rejoint de South Dundas en Ontario au Canada. En direct de Yaoundé au Cameroun, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Et avec moi sur ce plateau, l'analyste américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un think tank basé ici même à Washington DC. Calvin Dark, la récente mise en garde du FBI, la police fédérale américaine, contre d'éventuelles attaques terroristes sur le territoire américain, est-elle une réaction directe à cette guerre entre Israël et le Hamas, ou s'agit-il d'un problème plus large?
Je crois que ce problème existait avant 7 octobre, mais ça va vraiment, vraiment compliquer des choses, surtout pour les autorités américaines. Mm-hmm. On a vu, il y a beaucoup d'avertissements des groupes juifs sur les universités de racisme contre les juifs. Mm-hmm. Et on a vu hier, le vice-président Kamala Harris, elle a annoncé que maintenant, pour la première fois, ils ont une stratégie anti-islamophobie. OK? Alors, ça va être très compliqué pour les mois qui viennent pour vraiment adresser ce problème et à la fois être allié pour Israël, ce que ça veut dire, on ne sait pas exactement, et pour trouver un équilibre entre le racisme contre les Juifs, le racisme contre les musulmans aux États-Unis, et aussi le risque des autres attentats visant les cibles américaines. Ça va être vraiment un agenda très compliqué pour le FBI.
Jean-Victor, quels sont d'après vous les principaux obstacles aux efforts de médiation internationale entrepris depuis le début de cette guerre? Sont-ils insurmontables? Bref, la communauté internationale pourrait-elle parvenir à s'entendre sur des actions concrètes pouvant conduire au retour à la paix? Vaste question évidemment, mais en quelques mots si vous pouvez.
Je vais être vieux. Le véritable problème a toujours été celui de savoir si un exécutif américain peut résister aux appels de la communauté juive aux États-Unis, qui est très important, mais aussi résister à son soutien naturel et historique à l'État hébreu, État légitime, reconnu, qui doit être reconnu davantage. Est-ce qu'un exécutif américain peut résister à tout cela avant des élections? Bien évidemment, il faut une autre lecture, un autre équilibre, mais cela va beaucoup dépendre de l'équilibre interne politique aux États-Unis. Mais en même temps, les États-Unis peuvent-ils continuer à garder la même ligne politique quand on sait que par ailleurs, en Afrique, en Asie et dans les pays du Sud, il y a une autre vision, une autre perception? En tant qu'activiste dans une organisation comme l'Union des journalistes pour la presse libre africaine, les organisations de médias, je puis dire qu'il y a aussi la question de la couverture. Car la communauté internationale doit aussi faire son rôle. elle a un poids. Et tant et aussi longtemps que la bande de Gaza n'est pas couverte médiatiquement, alors qu'on a vu qu'après les attaques du 7 octobre, il y a eu une flopée, une panoplie incroyable de médias, et surtout des médias occidentaux en Israël, ce qui était une bonne chose, il faut regretter que les terribles souffrances et la situation à Gaza ne soient pas couvertes, car une telle couverture donnerait un équilibre et peut-être une pression plus importante à ce que la paix ait une chance. La paix, comme le disait Houphouët Boigny, n'est pas seulement un mot, c'est véritablement un comportement. Or, les comportements sont parfois dictés par les perceptions que nous avons du monde.
Donner une chance à la paix, Shafik Osman, vous l'évoquiez dans la première partie du programme, mais vu l'évolution de la situation, quelle est selon vous la meilleure façon d'aborder la solution à deux États? Est-ce encore une option viable?
Oui, tout à fait, et c'est même une condition sine qua non. Rien n'empêche Jacques Aristide d'avoir deux choses à la fois. C'est-à-dire, le conflit, ça va dépendre d'Israël, évidemment, et aussi des États-Unis, de leur politique, de continuer. Ça n'empêche qui est qu'on ne peut pas, on peut en parallèle avoir des initiatives de paix, du moins des pourparlers qui commencent. Et ça, c'est très important. Et comme disait Jean-Victor, donc c'est, la paix, c'est aussi un état d'esprit. Donc il faut, si on a cet état d'esprit, on se met, on commence le travail en parallèle. Et on commence à rallier les États dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est très important qu'il y ait un forum, qu'il y ait une capitale quelconque où ces parties prenantes commencent à se rencontrer. Ouais. Parce que si on n'arrive pas à cette solution de deux États, comme vous dites, et il n'y aura pas de paix, et on veut, à travers ce massacre actuellement, on veut une solution durable, ouais, bien évidemment.
Calvin Dark, Israël dit vouloir écraser le Hamas. Est-ce un objectif réaliste alors que la bande de Gaza, on le sait, sous l'emprise de ce groupe, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et l'État hébreu? Et si Israël arrive effectivement à atteindre cet objectif, que va-t-il se passer dans cette enclave palestinienne, brièvement?
Je crois que l'éradication de Hamas, c'est obligatoire pour l'existence d'Israël. La question, c'est la stratégie pour le faire. Et maintenant, je crois que la réaction internationale, c'est qu'il y a trop de morts, de blessés innocents palestiniens dans la stratégie d'Israël. La deuxième chose, on n'a pas vraiment parlé de qu'est-ce qui va se passer après Hamas. OK? Si on va arriver, par exemple, à une solution de deux États, qui va être la partie prenante pour remplacer Hamas? C'est l'autorité palestinienne, c'est un autre groupe. Et est-ce que ce groupe va avoir la confiance des Palestiniens et des pays dans la région? C'est beaucoup de questions à répondre. Mm-hmm.
Donc, que va-t-il se passer justement après dans l'enclave palestinienne? En deux mots, Jean-Victor?
Eh bien, moi, je pense qu'il peut y avoir, si les pays importants n'y mettent pas du leur, il peut y avoir une véritable conflagration internationale qui peut avoir de très graves complications. L'embrasement du Liban n'est pas exclu, l'entrée du Yémen ou même de l'Iran dans cette guerre.
Évidemment, le temps fait défaut. On reviendra sur ce sujet certainement, Jean-Victor. Désolé de vous interrompre. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Shafik Osman, Calvin Dark et Jean-Victor Nkolo. Nous disons merci également à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et comme on nous dit ici à Washington, take care. Merci.